Kompass bringt fremde Kulturen ins Rübeland. Kompass, jetzt auf Kanal K.
Fenêtre sur Afrique avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K.
Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K. Canal K.
Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K.
Eh bien, merci de nous être fidèles dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, merci d'être dans la deuxième partie de cette émission où nous débattons du thème contentieux électoral en Afrique. Pourquoi le contentieux électoral porte souvent sur le fichier électoral, sur la présidence de la commission électorale et enfin sur les résultats électoraux. Et également, pourquoi plus de la moitié des crises en Afrique surgissent au lendemain d'un scrutin électoral? Comment sortir des crises post-électorales et créer les conditions d'un vrai dialogue politique en Afrique? Ce sont là autant de questions que se posent beaucoup d'Africains et c'est de ces questions que nous avons débattu tout au long de la toute première partie de cette émission avec nos invités, Joseph Pouloulou, journaliste congolais à Radio Manguebo FM, Alain Jules, journaliste blogueur, avec également Olivier Fado Dessou, qui est le vice-président de MORAF, Mouvement pour la Renaissance africaine basée à Bruxelles. Et dans la deuxième partie, j'espère que notre ami Alain Jules va également nous accompagner. Et nous allons retrouver, si tout va bien, le professeur Balam Fachio, qui est ancien ministre de la planification du Tchad. Merci de nous être fidèles dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Dans un instant, nous allons tenter de joindre nos invités.
Le togovie.com, AfriPresa, togoactualité.com, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Eh bien, nous parlons toujours du contentieux électoral. Et justement, au Togo, l'opposition conteste déjà les dernières élections législatives du 25 juillet dernier. Eh bien, avant de continuer ce débat avec nos invités, nous accueillons tout de suite en ligne, en direct depuis Lomé, notre correspondante Fabi Kouassi, et qui nous fait aujourd'hui, encore une fois, une réflexion sur le contentieux électoral au Togo. Donc, Fabi Kouassi a titré donc cette analyse « Élections législatives de 2013 au Togo ». La mission d'observation de l'Union européenne dénonce la contre-vérité des urnes. Fabi Kouassi, bonsoir.
Sylvain Amos, bonsoir à tous. Contrairement aux missions d'observation de l'Union africaine et de la CEDEAO et bien d'autres visiblement en opération commandées qui ont consacré la contre-vérité des urnes lors des dernières législatives par des rapports tordus, la mission d'expertise électorale de l'Union européenne donne un autre son de cloche et dénonce les fraudes et irrégularités qui ont émaillé les législatives du 25 juillet dernier, consacrant la mascarade qui a consisté à s'attribuer, tel dans une loterie, des sièges de députés au Parlement parce qu'on se dit parti au pouvoir, on ne respecte rien ni personne et donc on donne des strapontins aux adversaires politiques selon les humeurs. L'Union européenne, par le biais de cette mission, révèle et confirme cet énième complot électoral ourdi par le régime cinquantenaire contre le peuple togolais. Pour cette mission d'observation, les résultats des législatives ne reflètent pas la voix des urnes, mais les tendances ont été rendues publiques par la Commission électorale nationale indépendante CENI par une voix non consensuelle, atteste la mission d'expertise. Autre grief de cette mission de l'UE, aucun résultat ni aucun procès verbal des opérations électorales par bureau de vote n'ont été rendus public par la CENI. À l'heure où les résultats provisoires étaient proclamés, le personnel du Centre national de traitement des données procédait encore à la saisie des procès-verbaux remontés du terrain la centralisation des résultats par bureau de vote sur la base de l'original du procès verbal prenant plus de temps que prévu, peut-on lire dans ce rapport encore confidentiel à ce jour, mais rendu public par le quotidien privé Liberté dans sa livraison du 7 août dernier. Selon nos informations, ce rapport mettrait à mal la communauté internationale dont certains membres se sont rangés très tôt du côté du hold-up pour le plaisir de Fornia Simbi et compagnie, notamment l'ambassadeur des États-Unis au Togo, Robert Whitehead. Cette publication met en déroute ses diplomates et autres réseaux au centre de l'UE quand on sait que Mme Catherine Ashton, la représentante de l'UE pour les affaires étrangères, s'est aussi empressée de se féliciter de ces élections. Cette expertise qui confirme la mascarade grandeur nature du 25 juillet dernier constitue un sérieux camouflet donc pour toutes ces personnalités. Le même rapport donnerait du tournis aux juges de la Cour constitutionnelle du Togo qui depuis 3 semaines sont incapables de publier les résultats définitifs violant ainsi les dispositions du code électoral. Quoi qu'il en soit, la Cour promet rendre incessamment ces résultats qui devraient confirmer les faux de la commission électorale, une véritable mascarade électorale qui confirme que le régime togolais reste fermé à tout changement et à une quelconque ouverture démocratique. En plus de l'UE, le Conseil mondial de la diaspora togolaise, le CMDT, la plateforme de la société civile, confirme que ces législatives sont émaillées de fraude et d'irrégularités. Un rapport de l'UE qui contraste donc avec les satisfaits bas et honteux de la CDAO et de l'Union africaine. Le Togo reste donc malheureusement fidèle à ses habitudes de mascarade et de hold-up tous azimuts où la vérité des urnes n'est jamais respectée. Ce faisant, le régime togolais, en perpétuant la tradition d'élections truquées de père en fils, finira par contraindre les Togolais à d'autres moyens pour faire triompher vaille que vaille la démocratie.
Fabi Kwasi, merci.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Bien, effectivement, il y a quelques semaines ou plus de 2 semaines que notre radio partenaire, Légende FM à Lomé au Togo, a été fermée par la HAC. Alors, cette semaine à Lomé au Togo, les avocats de Légende FM étaient en confrontation avec la HAC. Donc, Fenêtre sur l'Afrique reste donc solidaire pour que Légende FM retrouve ses émissions. Et également, nous sommes de cœur avec eux, n'est-ce pas, Romain Koudodi?
Évidemment, en cette période difficile de Légende FM, notre radio partenaire, où la dictature prime sur le droit et sur la vérité, ne voulant pas libérer la parole, nous nous associons à eux et compatissons à eux et nous souhaitons que vivement ils puissent se reprendre et nous relancer.
Effectivement, nous allons commencer, on continue ce débat africain. Le contentieux électoral en Afrique, nos invités sont toujours en ligne en direct depuis la France. Alain Jules nous avait accompagné tout au long de la toute première partie de cette émission. Le professeur Balam Facho, ancien ministre de la planification du Tchad, vient de nous rejoindre depuis la France également. Bonsoir, professeur Balam Facho. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, cher ami. Je vous écoute.
Alors, merci de nous accompagner en direct depuis la France. Nous débattons du thème le contentieux électoral. Alors, pour vous, pourquoi le contentieux électoral porte souvent sur le fichier électoral, sur la présidence de la commission électorale et enfin sur les résultats électoraux?
Bon, disons tout d'abord que merci pour cette interview et surtout cette participation, modeste soit-elle de ma part, pour cette question qui préoccupe beaucoup des Africains. Certains esprits, à mon entendement, sont attardés en Afrique et n'ont pas compris que le monde est en mouvement, que les populations africaines demandent de plus en plus de participer à la gestion de la chose publique. Cette réticence au changement est un tard de la part de beaucoup de nos responsables, de dirigeants africains. Je pense que les masses médias africaines devrait se tourner vers l'éducation politique et l'information objective de nos populations pour les sensibiliser à avoir accès à leurs droits, à même réclamer leurs droits vis-à-vis de ces dictatures qui ne veulent pas leur permettre de s'exprimer. Le défi passe par la prise de conscience de la plus grande partie de nos populations. Et cela va se traduire essentiellement par des manifestations de masse. Et nous pensons que l'exemple togolais est très édifiant, parce que c'est la seule façon de pouvoir conquérir nos droits, c'est-à-dire mobiliser nos masses populaires et aller manifester pour demander nos droits. Ils ne vont pas tuer tout le monde. Ils seront contraints d'avoir accès et d'accès aux demandes de nos populations. Et ne jamais baisser les bras face aux menaces qui peuvent nous être adressées. Réclamer nos droits, demander à ce pouvoir impopulaire des actes concrets pour que la démocratie avance chez nous. Tant qu'il n'y aura pas ces manifestations, tant qu'il n'y aura pas de liberté pour que les gens s'expriment, il est évident que les trichages, ils vont continuer à tricher, ils vont continuer à manipuler, etc. En outre, les changements passent par les changements politiques en Afrique, pour moi, passent par la mobilisation à la base. C'est-à-dire, vous avez posé, j'ai écouté quelque part qu'il était bon de créer une structure panafricaine pour faire en sorte que les législations soient correctes. Or, on n'oubliez pas que les chefs d'État en Afrique constituent quand même déjà ce qu'on appelle un syndicat. Ils vont toujours se défendre, ils vont toujours protéger les leurs. Donc par conséquent, pour ma part, je pense qu'il est bon que l'unité se fasse à la base, que nos populations soient sensibilisées. Exemple, si les Togolais ont une manifestation au Togo, pourquoi ne pas mobiliser quelques éléments du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, pour venir leur apporter leur soutien, même s'ils sont en nombre réduit, compte tenu des difficultés que nos populations ressentent en Afrique. Ils seront à côté pour que demain, s'il y a des manifestations au Tchad, que d'autres viennent. Même si on est bastonné, ils ne vont pas finir par nous tuer tous. Et les droits de nos populations seront sauvegardés. Je pense que c'est ça. Mais il ne faut pas attendre des chefs d'État africains qu'ils puissent intervenir. Mmh. On a vu les trucages partout. Qu'ils interviennent. Mmh. Non, moi je crois que c'est pas une bonne démarche. La meilleure démarche, c'est d'abord nous organiser à la base. Que nous soyons solidaires les uns et les autres. Que le Togolais se sente solidaire du Tchadien, que le Togolais se sente solidaire du Malien, etc., etc. Qu'à la base, nous qui sommes les damnés de ces régimes-là, qu'on puisse vraiment s'organiser et par conséquent imposer notre loi à ces hommes-là, ces hommes de paille, parce qu'ils ne sont pas solides. Ils n'ont pas une base populaire, parce qu'ils trichent. Et en nous organisant, je suis convaincu, nous pouvons apporter des changements.
Justement. Alain Jules, vous avez suivi l'ancien ministre de la planification du Tchad, le professeur Balam Fasho.
Oui, tout à fait. J'ai entendu monsieur le ministre tout à l'heure, mais le problème, c'est bien beau, hein. Mais on ne peut pas rester dans les discours. C'est-à-dire que, bon, monsieur le ministre est en train de faire un discours, nous devons nous mobiliser, l'Afrique doit être unie, etc. Mais je crois quand même que l'Afrique a eu des leaders qui ont voulu cette union-là. Je peux parler de Krumah, ensuite il y a eu des leaders comme Kadhafi qui étaient combattus par d'autres chefs d'État africains. Donc dire que les chefs d'État africains ont une corporation où ils s'entraident et tout ça, je ne le pense pas forcément. J'en veux pour preuve, Kadhafi, il avait voulu que, n'est-ce pas, il y ait une force de défense africaine. Mais ce sont plutôt des dirigeants africains qui étaient réticents. Et on a vu le résultat avec ce que l'OTAN allait faire, notamment Libye. Ça, c'est une parenthèse. Mais en réalité, pour moi, hein, je crois sincèrement que quand on prend l'exemple, par exemple, des soi-disant printemps arabes, parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé derrière, c'est un échec total d'Égypte en Libye, en passant par la Tunisie. La réalité, c'est quoi ? Considérons que le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord a un socle commun qui est l'islam. Les frères musulmans, qui ont toujours été dans l'opposition depuis des années et des années, ont travaillé au niveau social. J'espère que c'est de ça qu'il voulait parler, monsieur le ministre. C'est-à-dire qu'au niveau social, il faut aller vers les gens, les éduquer, etc., etc. Mais on a vu très bien les alternances en Afrique. C'est-à-dire que on veut être au pouvoir, mais une fois au pouvoir, on s'en fout. Ça se passe aussi chez nous en Occident, c'est-à-dire que quelqu'un est élu, il va demander des votes, mais après, quand il est élu, il s'en fout peut-être de la banlieue qui a permis qu'il soit élu, qu'il député ou sénateur, je ne sais pas trop quoi. Donc, aujourd'hui, effectivement, il faut cette éducation-là. Mais nos oppositions sont tellement pressées, alors que effectivement les présidents sont impopulaires pour la plupart, mais que veulent au juste les oppositions africaines? Mais c'est le pouvoir. Quel travail de fond ces oppositions font? C'est bien beau de après, quand on déclare qu'on a gagné l'élection présidentielle, de demander au peuple de venir manifester. Vous croyez que des gens iront comme ça se faire tuer alors qu'ils savent que le président en place est soutenu par la France, est soutenu par l'Angleterre, simplement parce qu'il leur a ouvert tous les champs pétrolifères et toutes les réserves minières? Ce n'est pas possible. Donc je crois qu'il faut qu'on soit un peu solidaire, ça c'est vrai, mais il faut que l'opposition fasse le travail à la base.
Justement.
Pour moi, c'est l'essentiel.
Merci Alain Jules.
Monsieur Fado Olivier.
Monsieur Facho Balam.
Monsieur Facho Balam, il est une évidence aujourd'hui que la CEDEAO a démontré ses limites en prenant l'exemple du Togo et du Zimbabwe où, pour elle, les élections sont transparentes. Bon, maintenant, vous êtes une partie de l'intelligentsia africaine, de la classe politique pensante. Pourquoi ne pas reposer la problématique des élections en Afrique en confiant l'organisation, la supervision d'élections à l'ONU, par exemple, une institution plus ou moins encore crédible sur le terrain?
Bon, mais avant de vous donner mon point de vue sur cette question que vous venez de soulever, moi j'ai dit à notre ami tout à l'heure, on est d'accord sur une chose. Il faut que nos populations soient éduquées, formées à la base. Et ça, on est tout à fait entier. Mais quand il me donne l'exemple de Kadhafi, et Kadhafi quand même a baïonné son peuple, hein, même malgré tout ce qu'il a pu faire, il a baïonné son peuple, il a refusé à ce que son peuple s'exprime. Moi, je suis le voisin, je suis celui peut-être qui a rencontré Kadhafi à plusieurs reprises, mais Kadhafi n'a pas permis à son peuple de s'exprimer, même dans les urnes. Soit disant que c'était un régime populaire, mais loin de là. Parce que les hommes veulent leur liberté, veulent s'exprimer, veulent se reconnaître eux-mêmes. Mais lorsqu'on les empêche de s'exprimer et de se reconnaître eux-mêmes, on ne peut pas aller plus loin, mon cher ami. Maintenant, en ce qui concerne ces élections législatives qui sont organisées ou présidentielles, qui sont organisées partout en Afrique, il est évident que c'est des choses déjà typées à l'avance. Parce qu'on le dit des observateurs. Les observateurs, on les a vus un peu partout. Hein. Ça n'a rien donné du tout. Ça n'a rien donné du tout. Ils sont là. Ils observent, mais qu'est-ce qu'ils disent en plus? Après, on cautionne. Et je pense que ce n'est pas l'objectif ou ce n'est pas les objectifs des observateurs qui devraient dénoncer rarement que d'autres dénoncent. Oui, d'une manière molle, en disant, oui, voilà, bon, les élections ne sont pas si mauvaises que ça, ça s'est passé dans des conditions. Alors, ça ne nous amène pas très loin. Il est évident que les Nations Unies peut être un moyen. Mais les Nations Unies sont aussi contrôlées. Ceux qui financent, ceux qui payent les Nations Unies, c'est qui? Ils ont le droit de regard. Quand on est dans un cercle où, moi je pense, la seule chose est entre nos mains. C'est-à-dire, c'est vrai, nous de l'opposition, on devait faire quelque chose de formidable, c'est aller à la base, sensibiliser, former, éduquer les gens sur leurs droits et devoirs. C'est long peut-être, mais c'est le chemin qui va nous conduire à la victoire. Et lorsque les populations vont manifester contre ces trafics des élections à 80 combien pour cent, je ne sais, alors le peuple va s'élever. Et je soutiens, vous savez, les manifestations qui ont eu lieu au Togo, même s'ils n'ont pas porté aujourd'hui le fruit qu'on attendait, ça fait prendre conscience à la fois à nos populations, mais aussi aux dirigeants, à savoir, attention, il ne nous est plus permis de faire ce que nous voulons comme avant. Le monde a changé, les choses ont changé, les populations ont pris conscience de leurs droits et devoirs. Et donc je pense que c'est ça qui pourra nous aider à avancer. Non, il ne faut pas condamner les gens, il ne faut pas trouver simplement parce que bon, il y a des actes. Non, aujourd'hui, le monde est en avant, le monde veut changer. Et chaque Africain veut être participant à la gestion de la chose publique. Et ça, c'est des nouvelles données. Et ce qui fait qu'il y a une prise de conscience plus générale. Mais cette prise de conscience a besoin d'être conduite, elle doit être menée. Elle a besoin des meneurs clairvoyants. Des gens qui ne voient pas leurs propres intérêts immédiatement, mais qui voient l'intérêt de la grande masse de nos populations. Et ces intérêts-là on peut le défendre d'une manière conséquente et arriver à des résultats conséquents. Mais si nous ne voyons que nos intérêts, voire accéder au pouvoir, mais pour faire quoi? Il n'y a rien du tout.
Merci. Merci, professeur Balam Fachou. Alain Jules, une réaction rapidement?
Oui, disons que, bon, c'est vrai que c'est ça qu'on constate. Moi, je ne crois pas qu'il faille revenir sur Kadhafi avec qui ne permettait pas à son peuple de s'exprimer. Tout le monde le sait. Mais le problème, c'est nous condamnons justement ces chefs d'État africains qui se sont désolidarisés de Kadhafi, de ces gens soi-disant hommes politiques africains qui n'ont pas été capables d'aller défendre la Libye au moment où la Libye était attaquée par l'OTAN. Parce que bon, quand on parle tout à l'heure, il parlait tout à l'heure de la CDAO qui était incapable. Attends, il faut faire attention. Moi, j'ai l'impression que justement, Monsieur le ministre, Madame Fachou a cette vision très occidentale de la démocratie qu'il veut carrément transposer en Afrique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Faut-il rappeler le système politique libyen à Monsieur le ministre? On sait très bien comment ça se passait. Kadhafi ne décidait pas seul. Il faut quand même un peu de vérité parfois quand on est dans un débat
je vous comprends. Alain Jules, je vous comprends. Oui. Nous parlons du contentieux électoral en Afrique. Justement, on avait abordé les questions sur les observations en Afrique, mais moi je pense qu'on n'avait pas tellement bien détaillé ces missions d'observation que critiquent beaucoup de panafricanistes. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'à chaque élection en Afrique, des missions d'observateurs ils poussent comme des champignons. Et ça, cette question, je viens de le poser également à Joseph Pouloulou, le panafricaniste congolais. Alors, chaque pays africain dispose de son lot d'organisations des observateurs vers lesquels il se tourne comme pour quémander une certaine caution. Alors, Alain Joule, est-ce que vous comprenez pourquoi ce sont que les Africains qui se livrent à cet exercice qui dénotent cruellement d'une absence de démocratie et d'institutions viables, Alain Jules?
Déjà, on n'a pas d'institution forte. Vous savez, quand on sait que l'UEA est financée en partie par l'Union européenne, vous voulez que l'UEA puisse parler? C'est pas possible. On a vu justement dans le cas, peut-être c'est une obsession pour moi, dans le cas libyen, les chefs d'État menacés d'être bombardés par la France parce que il fallait aller parlementer avec Kadhafi. On a vu la CDAO, justement. Que voulez-vous qu'on fasse à partir du moment où l'argent vient de l'extérieur? On n'est pas indépendant. Alors, justement, ce sera toujours le même débat. On ne s'entendra jamais tant que ce sera comme ça, tant qu'il y aura des gens qui auront l'impression qu'on peut transposer la démocratie occidentale à l'Afrique. C'est pas possible. Au niveau des mœurs, on n'a pas les mêmes choses, on n'a pas la même vision sociétale. Et je l'ai toujours dit, ça ne veut pas dire que je suis contre la démocratie, mais je suis en train simplement de constater que la philosophie politique africaine n'a rien à voir avec la philosophie politique occidentale. Donc, parler des commissions, parler des observateurs, ça c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est pas fait pour l'Afrique.
Justement.
C'est pour ça que je dis qu'autour d'une table, on peut s'entendre, on peut parler, mettre les bases, avoir nos propres juristes. Pourquoi faut-il faire toujours venir des gens d'Occident pour réglementer ou régulariser nos campagnes électorales? C'est pas possible. Il faut que ça s'arrête un jour. Et tout ça, c'est avec notre propre financement. C'est ça qui est triste là-dedans. Ça veut dire quoi? Il y a des sages en Afrique. J'aimerais voir, par exemple, que des gens puissent s'asseoir en Côte d'Ivoire. On a vu dernièrement des libérations et tout ça, où des gens ont été emprisonnés pendant 2 ans, alors qu'il n'y a rien contre eux. Où sont les Africains? Où sont les Africains? Quand on arrête un professeur, par exemple, on nous dit que l'Occident dit qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire, par exemple. Où étaient ces gens, ces Africains qui ont été incapables d'intervenir quand, par exemple, des gens étaient emprisonnés, comme ceux qui sont sortis dernièrement de prison? Que disent les Africains aujourd'hui quand un ancien chef d'État est à la haie, il n'y a aucune charge contre lui? Où sont-ils? Comment voulez-vous qu'on parle d'élections quand nous ne sommes même pas capables de défendre les nôtres? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est le vrai enjeu. Si on n'est pas capable de défendre nos propres citoyens, à Africains en général, parce que moi je ne suis pas Camerounais, je ne suis pas Ivoirien, je ne suis pas Tchadien, je suis Africain.
Africain, merci Alain Jules. Voilà. On va donner également la parole à notre deuxième invité, professeur Balam Fachou, ancien ministre de la planification du Tchad. Merci de nous accompagner toujours en direct depuis Paris en France. Et effectivement, nous parlons du contentieux électoral en Afrique. Et bien écoutez, monsieur le ministre Fachou, le clan Bongo, 56 ans au pouvoir au Gabon, et le clan Nyansimbe Yadema, 48 ans du règne au Togo, Robert Mugabe, 33 ans au Zimbabwe, Paul Biya, 31 ans au Cameroun, Sassou Nguesso, 27 ans au Congo-Brazza, et Blaise Compaoré, 26 ans. C'est quand même le schéma quand même... c'est pas de commentaire hein, dans ce débat contentieux électoral. Dans tous ces pays que nous venons de citer, il y avait eu des soulèvements, des protestations, des contestations à chaque élection. Alors finalement, on se pose la question, à qui profite réellement ce contentieux électoral et Fachou?
Bon, d'abord, je crois qu'il faut mettre les choses un peu en ordre par rapport à notre ami qui vient de parler. Mais la démocratie n'a pas de couleur, n'a pas de pays. La démocratie, c'est quoi? C'est l'expression populaire qui doit se manifester. Et je pense que les Africains ne se trouvent pas ailleurs. Aujourd'hui, le monde est globalisé. Le monde est globalisé. La démocratie, les gens recherchent ça partout hein, dans le monde. Et même s'ils critiquent un peu le printemps arabe, mais c'est toujours à la recherche de l'expression, c'est la démocratie. Dans nos conditions traditionnelles aujourd'hui, c'est pas cela du tout. Hein. Il faudrait qu'on voie que le monde avance et que nous sommes dans ce monde, il faut que nous avancions. Mais quand le gars, il est au pouvoir, il fait semblant, il dit « bon, moi je vais organiser des élections ». Et il traficote ça déjà de l'avance. Il trouve déjà, même il y a des vendeurs de logiciels traficotés pour déjà fixer le taux que celui qui est au pouvoir va avoir, en mettant déjà des résultats d'avance. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Nous voulons nous refuser à la démocratie pour aller aux élections? Nous, nous voulons à la démocratie, nous voulons aller aux élections, mais nous voulons que ces élections soient transparentes. Il faut que ça soit la volonté populaire qui triomphe de là. Lorsqu'on nous trafique ça, nous ne sommes pas d'accord. Si on ne donne que le résultat réellement exprimé par une population, nous sommes d'accord. Mais les gars, ils se maintiennent pendant 25-30 ans au pouvoir pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils apportent? J'estime qu'après deux mandats de 5 ans, le type, il n'a plus d'initiative et il doit partir. Et si la personne aime son pays, veut que les choses avancent, la meilleure solution, c'est de dire, mes amis, j'ai joué ma partition. Parce qu'en fait, chacun joue sa partition.
Justement.
Une fois qu'on a joué la partition, on s'en va. Mmh. On ne peut pas se maintenir là en disant, oui, moi, quelle idée vous avez? Les autres, ils ont des idées. On a besoin de conjuguer tous nos efforts pour améliorer les conditions de vie de nos populations, pour avancer. L'Afrique ne sera pas différente et l'Afrique ne restera pas en retard par rapport à l'évolution globale. Et nous pensons que aujourd'hui, si la Chine a quelque chose de positif, c'est la révolution populaire organisée par Mao Zedong. On a critiqué Mao Zedong pour cela. Mais aujourd'hui, les Chinois, après quelques années, sont en train de récolter ce que Mao Zedong a posé comme base.
Mais
je crois que c'est ça que nous devons faire.
Merci.
On doit dépasser nos traditions pour aller de l'avant.
Justement. Je vois que Romain Koudodi me fait signe. Hein. Il a quelques préoccupations, Romain.
Évidemment, ces préoccupations, je voudrais bien les partager avec Monsieur Alain Jules. Monsieur Alain Jules, c'est une évidence aujourd'hui que la démocratie connaît des échecs en Afrique. Et cette évidence est plutôt patente par les mainmises de l'extérieur. Par exemple, quand nous prenons l'exemple de la France qui refuse d'envoyer de l'argent au Togo pour des élections dites non transparentes, mais en même temps envoie des observateurs de la francophonie, nous pensons que c'est une duperie. Mais néanmoins, des réflexions ne peuvent pas être menées vers l'Afrique à cheval entre la démocratie à l'ancienne place de l'Agora où le peuple s'unit à main levée pour faire son choix, par exemple, monsieur Alain Jules.
Il est simple, hein, c'est-à-dire que à partir du moment où notamment, vous avez parlé tout à l'heure de la France, où la France choisit le pays vers lequel on peut envoyer des observateurs. Moi, la francophonie, c'est quoi? La francophonie, c'est la France, hein. Vous savez très bien que pour que quelqu'un soit élu à la francophonie, il faut forcément l'aval de la France, hein. À partir de ce moment-là, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est une duperie. Donc, maintenant, dire que l'élection n'est pas bonne, etc., et puis ne rien faire derrière, à quoi ça sert de faire cette déclaration-là? Ça, c'est la vraie question. Donc, moi, sincèrement, comme je l'ai toujours dit, hein, j'ai du mal, avec aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de dictateurs en Afrique. On a relevé tout à l'heure que le clan Yadema, c'est près de, je sais pas, 5 décennies déjà au pouvoir. Le président camerounais Paul Biya, c'est 33 ans, je crois, au pouvoir. Le clan Bongo, etc. Mais croyez-vous sincèrement aujourd'hui que les gens, c'est-à-dire l'opposition au Cameroun, l'opposition au Togo et l'opposition, je sais pas, ailleurs, est à même réellement d'apporter ce changement-là, parce que, soi-disant, ils rêvent que ce changement viendra par les urnes. C'est là mon problème, en fait. Je dis à ces gens que l'alternance, le changement, ne viendra pas des urnes, faut pas rêver. Et c'est pour cela que je critique le fait de chercher à transposer la démocratie occidentale.
Oui, Alain Jules. Alain Jules, si vous pensez que l'alternance, le changement démocratique ne peut pas venir des unes, alors qu'est-ce que vous proposez? Vous pensez déjà à une révolution intelligente et jeune comme l'a chanté Tchikin Jaffa Coli, peut-être ou pas?
Moi, je me suis toujours dit, je suis pas un homme politique, hein, mais je me suis toujours dit, si j'étais un homme politique, avec tout ce qui se passe en Afrique, avec toutes ces élections qui sont, de fait de tripatouillage incroyable, et puis qui se soldent par une espèce d'embrouillamini, on ne sait plus où donner de la tête, etc., à gauche ou à droite, en haut et en bas, il faut penser la société autrement. C'est-à-dire, par exemple, d'éduquer les populations, c'est-à-dire que de demander à ces oppositions-là de ne pas aller aux élections. À partir du moment où vous savez que les dés sont pipés, pourquoi allez-vous aux élections? C'est pour cela que moi j'ai un problème avec ces partis d'opposition dans ces différents pays-là. Vous savez que tout est faussé, pourquoi allez-vous aux élections? Mais les choses sont simples. Ces gens vont aux élections parce que, bon, on va peut-être grappiller un petit strapontin, parce que, bon, peut-être que... Je vois le cas de Gilles Olympio. Vous vous rendez compte? Un opposant comme celui-là, un monsieur aussi charismatique,
Là, vous parlez du cas du Togo.
Qui se retrouve avec 3 députés. Vous croyez que c'est pensable? Vous croyez que c'est réel? Mais c'est validé par tout le monde. Donc, à partir de ce moment-là, vous comprenez tout de suite que on n'y va pas. Mais c'est comme ces gens eux-mêmes, ils rêvent tellement du pouvoir. Parce que la vérité, elle est simple en Afrique. C'est pousse-toi pour que je m'y mette. C'est ça qui se passe partout. J'ai essayé de fréquenter certains opposants de différents pays, en Afrique, ici, à Paris et ailleurs. Je vous dis que ces gens-là, c'est la seule dynamique, c'est d'être au pouvoir. Mais est-ce que ces gens pensent au peuple? Je ne le crois pas.
Merci. On va continuer quand même avec vous avant de libérer le professeur Balam Facho qui attend toujours en ligne en direct depuis Paris. Et alors, professeur Facho, bien pour terminer ce débat avec vous, hein, alors comment pacifier alors la vie publique en créant les conditions d'une élection juste et transparente dans les États africains?
Oui, c'est-à-dire que revenons toujours au même mot.
Ah là là, il y a du bruit là à vos côtés, là, ministre Facho.
Oui, excusez-moi, il y a un petit bruit là. Bon,
allez-y, oui.
C'est arrêté. Bon, nous revenons toujours sur un élément important. Là, notre camarade. Non, parce que nous ne sommes pas des utopiques là. Il faut être terre à terre. Je me pose la question, pourquoi d'autres sont capables d'organiser des élections avec leurs propres fonds? Que l'Afrique doit tout le temps tendre la main pour qu'on vienne lui organiser les élections. Ça, c'est clair. Celui qui paye l'argent, il contrôle, hein. Il n'y a pas d'illusion. Celui qui paye, contrôle. Donc, il faudrait que les Africains, on devienne plus sérieux. Et je dis, notre salut, c'est partira que de nous-mêmes. Dans notre organisation, à mobiliser nos masses populaires. Parce qu'une fois qu'on commence à les manifester avant les élections pour demander de la transparence, je pense que nous imposerons notre volonté. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller, parce que l'exemple que nous avons vécu, c'est que les gens trouvaient qu'il fallait utiliser les prébendes, hein, pour pouvoir s'enrichir. Que la chose publique est devenue un élément d'enrichissement. Or, si nous avons une perception tout à fait différente, si nous nous aimons nos peuples, aujourd'hui nous ne voulons pas que nos populations continuent à souffrir. Donc, par conséquent, si on ne veut pas que les populations souffrent, il faut les aider à prendre possession de leurs droits et que les élections deviennent véritablement leurs droits et que pour faire les élections chez nous en Afrique, on n'aille pas solliciter l'aide des Nations Unies, l'aide de la France ou d'un pays et que nous puissions être capables d'organiser nous-mêmes nos élections. Or, aujourd'hui, aucun État, où vont cet argent? Alors que ceux qui sont au pouvoir, on sait qu'ils ont des milliards ailleurs. Pourquoi ne les mettent-ils pas pour qu'on puisse faire les élections? Pourquoi il y a du trafic? Non, il y a tout un problème d'ensemble. Tout un problème d'ensemble que nous devons... Et j'ai dit, elle ne se passera que par nous-mêmes. Nous, les gens de la base, nous qui voulons des changements, il faudrait qu'on aille vers nos populations, leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, je suis sûr...
Sensibilisation.
C'est un travail dur, mais on arrivera à un résultat.
D'accord. Merci beaucoup. Alors pour vous, il faut continuer à mobiliser, à sensibiliser... Et les Africains, et pour le dire que le destin des Africains, c'est dans les mains des Africains. En tout cas, merci le professeur Balam Fachou, ancien ministre de la planification du Tchad. Merci de nous avoir accompagnés dans ce débat où nous débattons du thème le contentieux électoral en Afrique. Merci et de nous avoir accompagnés. Et bonsoir chez vous, professeur Fachou.
Merci pour votre interview. Que Dieu vous aide.
TogoCity.com, IssyLomé.com, CVU-Togo-Diaspora.org, MO5-Togo.com, Togo-Online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. VRA, Voix de la Résistance Africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Eh bien, merci de nous suivre en direct dans ce débat et le contentieux électoral en Afrique. Alain Jules, journaliste blogueur, nous accompagne toujours dans ce débat depuis la France. Raymond Ayivi, il est aussi panafricaniste, il est togolais d'origine, il vient de nous rejoindre, il est membre fuyant du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise. Raymond Ayivi, bonsoir.
Oui, bonsoir Amos.
Eh bien, nous discutons du contentieux électoral et bien évidemment, cette émission, elle est très suivie par la diaspora togolaise que nous saluons beaucoup, la diaspora africaine également. Les Guinéens, les Gabonais, les Sénégalais, les Maliens, bonsoir à vous. Eh bien, justement, après les élections législatives, il y a beaucoup au Togo, justement, il y a beaucoup de réactions des Togolais de la diaspora. Avant de continuer ce débat, nous vous proposons d'écouter une réaction d'un Togolais.
Bonjour, chers amis auditeurs de Canal K, chers auditeurs de l'émission Fenêtre sur Afrique. Je m'appelle Siméon et j'appelle de Zaragoza, en Espagne. Et au fait, mon intervention tourne autour des nouvelles conditions que tous les Togolais cherchent de proposer à l'opposition en vue de sortir de cette impasse dans laquelle nous sommes enfermés depuis des décennies déjà. Mais au prime abord, je voudrais faire remarquer que beaucoup de choses ont été dites et entendues aussi depuis les dernières élections législatives du Togo. Et tout cela tourne autour de la nouvelle direction que doit suivre désormais l'opposition togolaise si elle veut réellement prendre le pouvoir, je dirais, si elle veut assurer l'alternance politique dans notre pays. Eh bien, la question qui se pose alors est de savoir si tout ce que nous avions dit jusque-là, tout ce que nous continuons de dire, suffit réellement pour proposer à l'opposition, au peuple togolais, les vraies conditions qui doivent être réunies pour assurer cette alternance. à mon humble avis, je crois que la problématique de l'alternance au Togo ne peut être dissociée de l'épineuse question de changement à laquelle notre opposition reste confrontée. Ça, c'est une réalité de base que nous devons, sur laquelle nous devons nous accorder. Et je dirais même que ça devient une nécessité. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette nécessité s'impose à la grande famille de l'opposition togolaise. Qu'est-ce que je veux dire? Si pendant plus de, plus de 20 ans que des élections ont été faites au Togo, les élections présidentielles depuis 1993 jusqu'aux dernières élections législatives de 2013, l'opposition n'a pas su sauvegarder et assurer la victoire écrasante que le peuple togolais lui a toujours octroyée. Cela suppose qu'un problème se pose. Pour moi, c'est clair. Soit le pouvoir a été uni, que dirais-je, politiquement, beaucoup plus fort que l'opposition en manque de stratégie pour venir à bout de son adversaire. Soit nous avons simplement affaire à une opposition, disons, incapable, une opposition de faire valoir, je dirais. Quoi qu'il en soit, il convient de dégager les conséquences qu'entraîne ce triste constat, non ? Et la première et fondamentale de cette conséquence, de mon point de vue, s'appelle changement. Et quand je parle de changement, je vous en prie, je ne me réfère pas forcément au remplacement de dirigeants, de leaders de l'opposition. Non, ce n'est pas à cela que moi je me réfère. Ce que je voulais dire, je fais fondamentalement allusion au changement des mentalités et d'attitudes, ce qui doit conduire inéluctablement au changement de stratégie. C'est-à-dire, nous pouvons toujours continuer de mener la lutte avec des hommes qui sont sur le terrain. Tous les noms que vous connaissez, je ne vais pas les citer, et tous les partis politiques de l'opposition qui s'engagent et qu'on connaît. L'ANC, par exemple, le CARB, ou bien, si je dirais, les deux coalitions qui existent de nos jours. Mais ces deux coalitions, cette classe politique de l'opposition doit comprendre qu'il doit changer de mentalité parce que la stratégie utilisée jusqu'à ce jour n'a pas fonctionné. On gagne et le RPT gouverne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que j'appelle changement, changer de stratégie.
Le Togo, notre Odenigban se meurt politiquement et économiquement. Pour ce faire, le collectif de résistance de la diaspora, CRD Togo, lance un appel patriotique pressant à toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier, spécialement la diaspora, pour le ralliement du front de la résistance citoyenne. Chaque contribution, quelle qu'elle soit, est déterminante pour réussir la mission de restauration citoyenne de la terre de nos aïeux.
Oui, d'accord.
Pour toute contribution financière, contactez les responsables du CRD au 0041 78 676 51 62 0041 76 378 02 77.
Oui, d'accord, avions l'envoyé.
Merci pour vos dons financiers au CRD.
Oui, d'accord, avions l'envoyé.
Togolais, viens, bâtissons la cité.
Oui, d'accord, Miladoué.
Eh bien, retour au studio de Canal K avec nos invités, je l'annonçais. Le responsable du CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise, vient de rejoindre dans ce débat Raymond Ivy, et nous débattons du thème le contentieux électoral en Afrique, là, et Raymond Ivy est d'origine togolaise. On va effectivement parler de ce contentieux électoral au Togo. Et alors, pour Raymond Ivy, pourquoi, selon vous, le contentieux électoral porte souvent sur le fichier électoral, sur la présidence de la commission électorale et enfin sur les résultats électoraux, Raymond Ivy?
Oui, merci Sylvain Amos. Permettez-moi de faire ce petit rectificatif. Je suis membre du comité de pilotage du Conseil mondial de la diaspora togolaise. Le responsable coordinateur général s'appelle Dr Martin Amozou.
Merci pour l'information.
Voilà, et donc j'ai écouté les différents intervenants à ce débat de ce soir, Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de revenir un peu sur ce que disait M. Alain Jules sur la démocratie. Il y a le professeur Balam Pacho qui lui a répondu sur les bases universelles de la démocratie. Il me semble bien que le débat dont il s'agit ce soir, ce n'est pas de dire qu'on veut importer la démocratie occidentale en Afrique. Il est question de dire que le monde évolue. Nous sommes à l'ère du temps réel, hein, de YouTube, de Facebook, et de Viadeo et autres, et qu'aujourd'hui, il est temps que l'Afrique aussi puisse aussi désigner ses propres dirigeants, le libre choix de ses dirigeants. Il est aussi temps que la liberté d'expression soit courante aussi en Afrique. Je vais revenir sur précisément le contentieux électoral dont il est question. Si je prends l'exemple de ce qui s'est passé au Togo le 25 juillet, je vais prendre ne serait-ce qu'un seul exemple que le Conseil mondial a cité dans son rapport synthétique, l'exemple 4 précisément. Les gens payaient pour voter. Pourquoi on dit payer pour voter?
Quand il s'agit achat de conscience. D'appeler... Achat de conscience.
Pardon?
Achat de conscience.
C'est-à-dire que quand il s'agit, par exemple, d'aller trouver son bureau de vote parce que vous ne figurez pas sur une liste d'un bureau de vote, vous devez appeler un numéro mobile 1010, mais qui est payant. Est-ce que vous ne trouvez pas cela que c'est quand même aberrant que des citoyens puisent dans leurs maigres ressources pour payer un numéro parce qu'ils doivent connaître leur bureau de vote pour pouvoir ensuite voter. De ces aberrations, la question qui me vient à l'esprit, c'est de dire, pendant combien de temps faut-il à l'Afrique pour que nous puissions nous-mêmes organiser le libre choix de nos dirigeants à travers des élections transparentes et crédibles? Quand on dit crédible, c'est des élections qui ont du crédit. C'est des élections qui, cette fois, font par le libre choix de dirigeants. Ça veut dire quoi? Après 22 ans de démocratisation, depuis les années 90-91, après la conférence nationale souveraine, nous ne sommes pas encore capables de pouvoir organiser des élections qui ne soient entachées d'aucune irrégularité. Combien de temps nous faut-il pour pouvoir apprendre à nous organiser? Quand on dit ça, on s'en rend compte tout de suite qu'il s'agit clairement d'un manque de volonté politique.
Oui, Raymond Ivy, je ne vous coupe pas, vous allez revenir sur vos idées et je vais devoir libérer notre invité qui nous a accompagné depuis la toute première partie de cette émission dès 19h. Alain Jules, et votre dernière réaction pour clôturer ce débat sur les contentieux et sur les contentieux électoraux en Afrique.
Oui, merci Amos. Je suis très heureux d'être là. De conclure et puis avec vous, notamment je vais revenir sur ce que Monsieur Raymond Ivy a dit tout à l'heure.
Mais allez-y.
Je suis très content d'ailleurs parce que c'est ça le clou de mon problème avec les oppositions africaines. Ce qui peut prêter à confusion parce que bon, habituellement dans certains débats, on a l'impression que je valide les pouvoirs en Afrique notamment. Mais il ne s'agit pas de cela. Je dis que j'ai un problème avec l'opposition africaine parce que ils savent que tout est pipé, mais ils y vont quand même. Il a fait un constat tout à l'heure. Donc, au niveau du contentieux électoral partout en Afrique, vous savez que tout va mal, mais vous allez tout le temps. Donc, pour moi, sincèrement, l'opposition est à l'origine de tout ce qui se... Les oppositions sont à l'origine de tout ce qui se passe en Afrique. Pourquoi? Ben, simplement parce que on ne peut pas s'engager dans des processus comme cela, alors qu'on sait qu'on n'a aucune chance alors qu'on sait que sa voix ne pourra pas porter. Moi, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour cela que je me suis toujours dit, mais ces gens, ils pèsent à quel niveau? Est-ce que c'est d'aller crier dans la rue ou d'aller crier sous les fenêtres d'un hôtel? Parce que, soi-disant, le président, il est là, ou je ne sais pas qui, ou le ministre de je ne sais quoi. Voilà la réalité. La réalité, elle est là. Il faut que nos oppositions africaines aillent vers le peuple, essayent d'éduquer ce peuple-là. Et notamment, par exemple, vous croyez que si, si l'opposition qui prétend être majoritaire, je ne sais pas, au Togo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, est vraiment unie? On dit aux gens, écoutez, à partir de maintenant, vous qui faites ceci, vous qui faites cela, vous êtes taximène, vous êtes, je ne sais pas, pharmacien, on va faire une grève générale, par exemple. Moi, je n'ai jamais vu une grève générale qui marche en Afrique, vraiment. Et pourquoi? Mais simplement parce que finalement, moi, pour moi, hein, ces gens ne pèsent pas. Ces gens ne pèsent pas. Leur seule idée, c'est d'arriver au pouvoir, de s'y installer et de refaire la même chose que leurs prédécesseurs, malheureusement.
Merci.
Donc moi, c'est pour cela que je n'ai jamais soutenu cette opposition-là.
Merci Alain Jules. En tout cas, merci beaucoup Alain Jules, journaliste blogueur, de nous avoir accompagnés tout au long de ce débat et le contentieux électoral en Afrique. J'espère que le thème sera encore posé une fois, et puisque le temps nous a été très court pour en débattre. Merci beaucoup Alain Jouret. Bonsoir.
Bonsoir.
On revient au studio et avec notre invité Raymond Ayivi du CMDT. Alors vous avez certainement suivi également un de nos auditeurs, un Togolais de la diaspora en Espagne, et qui réagit, hein, et qui se révolte après la participation de l'opposition à cette dernière élection législative au Togo. Alors, il dit, hein, on gagne, hein, il parle, il dit, l'opposition gagne les élections et le pouvoir gouverne. Quelle est votre réaction, Raymond Ayivi?
Moi, je voulais dire une chose. Vous savez, il y a trois parties prenantes. Il y a les parties dites d'opposition. Je voulais dire, il y a trois entités. Il y a le pays ou la nation, il y a les partis d'opposition et il y a le pouvoir. La question qui est au centre, c'est quoi? C'est la question de l'alternance. Même la Chine fait l'alternance. La Chine populaire fait l'alternance. Et pourquoi on dirait que les pays doivent œuvrer pour le changement sans changement d'homme à la tête? Il y a un vrai problème de ce que nous appelons le changement chez nous. Il ne s'agit pas ici de dire on change le nom des institutions, le nom des partis politiques, et on laisse les mêmes gouvernants ou les mêmes systèmes gouverner. Ce serait une aberration. Regardez bien la Chine. Pourquoi elle est devenue un pays comme une puissance aujourd'hui? Une puissance d'ailleurs monétaire. Pourquoi? Parce que malgré sa révolution, en tout cas avec sa révolution, elle s'est changée les hommes et faire évoluer son système. Alors, c'est pour revenir à donc sur ce que disait notre frère de l'Espagne, quand il jette un peu la pierre à l'opposition, moi je dirais que l'opposition aura son affaire peut-être, ses états généraux, en tout cas j'espère pour elle, à faire ses états généraux pour pouvoir tirer les enseignements qui s'imposent des erreurs et commises. Mais je ne pense pas que le débat qui s'impose là, c'est de dire que le changement que nous attendons aujourd'hui, parce que Arc-en-Ciel et le CST n'ont pas fait l'unité. La question, c'est de savoir d'abord, est-ce que nous voulons que le pays, le Togo, puisse évoluer? La question, fondamentalement, elle est là. Si on en est d'accord, ça veut dire que tous ceux qui aspirent à gouverner le Togo et ceux qui sont au pouvoir doivent pouvoir dialoguer. Il y avait un intervenant tout à l'heure qui parlait de dialogue permanent. Mais pour pouvoir dialoguer, il faut déjà être deux. Ça veut dire quoi? Il faut une sincérité dans le dialogue. Donc aujourd'hui, après 22 ans de démocratisation, il me semble que la solution réside dans une transition qui passe par un vrai dialogue. Et ce vrai dialogue, je ne sais pas s'il faut l'appeler,
justement,
une sorte de conférence nationale bis.
Mais si Raymond Evy, je ne vous
comprends pas. Qui réunit tout.
Raymond Evy, deux secondes. Je vous comprends. Nous allons donner la priorité à un auditeur qui vient d'appeler depuis les États-Unis avant de vous relancer. Hein. Bonsoir, auditeur.
Bonsoir. Je veux seulement participer à votre émission et à donner un point de vue.
Allez-y, rapidement. Vous avez une minute, rapidement.
Okay, le problème du contrat électoral en Afrique, je crois en premier point, est lié à la volonté manifeste des dirigeants à se maintenir au pouvoir, parce que bon, ils ont encore cet esprit antique qui leur font croire que pour être digne, ou bien pour être digne, il va falloir qu'ils se maintiennent au-dessus des autres. Et ça, c'est une pensée antique qui avait gouverné qui avait régné en Afrique au temps féodal. Et donc, ils ont cet esprit, ou bien cette volonté manifeste de se maintenir à la tête de leur peuple contre leur volonté. Et aussi, il y a aussi ce manque d'expérience ou bien ce manque d'opportunité de s'ouvrir sur le monde, à voir comment les choses évoluent dans le reste du monde, sachant que après avoir exercé le pouvoir exécutif à la tête d'un pays, il y a d'autres chances qu'il s'ouvre sur le monde. Moi, je ne vais pas donner l'exemple des présidents africains qui, après avoir exercé leur pouvoir, se retrouve vraiment sollicité sur le plan mondial à défendre des causes sociales. Je veux aussi donner l'exemple de l'ancien président sénégalais, Abdou Diouf, qui est présentement nommé je ne sais pas s'il est présentement à la tête de la francophonie, mais qui, après d'avoir exercé son pouvoir exécutif, a été sollicité pour diriger une institution internationale.
30 secondes pour conclure. 30 secondes pour conclure. Rapidement, 30 secondes.
Bon, je crois que, sincèrement, pour en tout cas, j'ai un dernier point à mentionner, c'est aussi la volonté de nos opposants de ne pas se rapprocher du
pouvoir. Merci.
Parce que bon, il y a.
On a compris.
Bon, je ne sais pas, peut-être le temps a manqué. Saisir l'occasion d'apporter.
Exactement. On va quand même organiser ce débat d'ici deux semaines, le temps de réorganiser et tout cela avec nos invités. Merci d'avoir quand même participé à ce débat depuis les États-Unis. Alors, Raymond Evy, rapidement, votre dernière intervention pour clôturer ce débat.
Ça fait combien de minutes,
On a encore deux minutes.
Voilà. Moi, je dirais que le professeur Balam parlait d'éducation populaire et des droits. Je disais tout à l'heure sur la question de droits, donnant l'exemple de payer pour appeler un numéro mobile 10-10 pour voter. Alors qu'il devait s'agir d'un numéro vert gratuit mis à la disposition des citoyens. C'est quand même, aller voter, c'est un droit. Donc, ça ne devait pas être quelque chose de payant. Voilà. Donc, moi, je dirais qu'aujourd'hui, la question de l'alternance, telle qu'elle se pose, par exemple, au Togo, doit passer par une transition. Et pour qu'elle passe par une transition, il faut un dialogue permanent. Et ce dialogue permanent, il me semble que une sorte de conférence nationale bis, bien maîtrisée, doit pouvoir accoucher de cette transition pour que l'alternance soit possible. On ne peut pas continuer à faire des élections de cette façon, avec des kits électoraux préparés,
justement,
préparés à l'avance, et dont les résultats sont connus.
Merci.
Et je dirais insister là sur quelque chose. Un parti politique.
30 secondes, parce que le temps est contre, on sera coupé. 30 secondes.
Tout parti politique digne de ce nom, qui exerce le pouvoir, doit un jour connaître l'opposition pour que l'alternance soit possible. Sinon, je dirais que ça veut dire que le pays n'a pas commencé les choses sérieuses.
En tout cas, merci beaucoup, Raymond Evy, du du CMDT, hein, et du CMDT, Conseil mondial pour la diaspora togolaise, d'avoir également participé à ce débat. Ce n'est qu'une partie remise et sur ce thème-là, le contentieux électoral. Nous allons quand même y revenir d'ici une ou deux semaines. Merci et bonsoir chez vous, Raymond Ivy.
Merci, Sylvain Amos. Bonsoir chez vous aussi.
Eh bien, merci à vous qui nous avez suivis dès 19h jusqu'à 21h. Merci de nous être fidèles. Excellente soirée à tous. À samedi prochain.